Épître aux Galates, chapitre 5.
Lecture de la parole. Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Tenez-vous donc ferme, et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous êtes circoncis, Christ ne vous profitera de rien. Et je proteste de nouveau à tout homme circoncis qu'il est tenu d'accomplir toute la loi. Vous vous êtes séparés de tout le bénéfice qu'il y a dans le Christ, vous tous qui vous justifiez par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Car nous, par l'Esprit, sur le principe de la foi, nous attendons l'espérance de la justice. Car dans le Christ Jésus, ni circoncision, ni incirconcision n'ont de valeur, mais la foi opérante par l'amour. Vous courriez bien. Qui est-ce qui vous a arrêté pour que vous n'obéissiez pas à la vérité? La persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever la pâte tout entière. J'ai confiance à votre égard par le Seigneur que vous n'aurez point d'autres sentiments. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera le jugement. Mais moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Alors le scandale de la croix est anéanti. Je voudrais que ceux qui vous bouleversent se retranchassent même. Car vous, frère, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, n'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair, mais, par amour, servez-vous l'un l'autre. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais si vous vous mordez et vous dévorez l'un l'autre, prenez garde que vous ne soyez consumés l'un par l'autre. Mais je dis, marchez par l'esprit. Et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair, car la chair convoite contre l'esprit, et l'esprit contre la chair. Et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. Mais si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Or les œuvres de la chair sont manifestes, lesquelles sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies, et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Or ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Ne soyons pas désireux de vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres et en nous portant envie les uns aux autres.
Lecture de l'étude. Il est bon de remarquer la manière différente dont le Saint-Esprit présente la liberté qui est la part du croyant maintenant. Dans Jean 8, versets 32 à 36, elle est attribuée au Fils et au Fils de Dieu agissant par la vérité, et sous les deux points de vue en contraste avec la loi.
Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham, et jamais nous ne fûmes dans la servitude de personne. Comment, dis-tu, toi, vous serez rendu libre? Jésus leur répondit, en vérité, je vous dis, quiconque pratique le péché est esclave du péché. Or l'esclave ne demeure pas dans la maison pour toujours, le Fils y demeure pour toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre.
Tout le chapitre est certes très frappant à cet égard, car nous avons le cas d'une femme surprise en adultère sur le fait même, et l'homme ne se fait aucun scrupule de se servir de cela pour un but égoïste. Et remarquez-le bien, c'est l'homme religieux. Il se place, comme il pourrait le supposer, du côté de Dieu, pour juger la faute la plus grave, la plus claire et la plus positive, et cela sans miséricorde et sans jugement de soi-même. Bien plus, il voudrait employer le cas du péché et de la honte de l'homme et la loi de Dieu, non seulement pour s'élever lui-même et prétendre à une justice qu'il n'a pas, mais pour déshonorer le Fils de Dieu. Or, c'est là la thèse du chapitre, et elle a fait ressortir d'une manière triomphante la gloire de Christ, car il n'est nullement venu pour ternir la loi. Mais alors il y avait une gloire qui l'emportait de beaucoup, et elle était venue, une gloire devant laquelle la dignité de la loi pâlissait. Et Christ la manifestait très clairement. Non pas qu'il ait proféré une seule parole pour rabaisser la loi, ce qui assurément n'aurait pu venir de Dieu. Mais néanmoins, il démontra l'impuissance totale de la loi pour répondre à l'état du pécheur, sinon par le moyen d'une destruction qui va bien plus loin que ceux qui la citent ne s'y attendent. La loi détruit la main coupable qui la manie, aussi bien que celui contre qui elle est dirigée. Elle est à deux tranchants dans son caractère quand Christ parle, et ceux qui en appelaient à la loi contre cette femme adultère confondue furent forcés d'en sentir le plus vivement le tranchant. Ce furent eux et non elles qui se retirèrent couverts de confusion de la présence de Christ. Mais, remarquez-le bien, il ne s'agit pas de Christ se servant de la loi, mais de Christ comme lumière divine, agissant sur la conscience. Néanmoins, il exposa de la manière la plus complète leur folie et leur péché de recourir à la loi. Il montra que celui-là seul qui serait sans péché pouvait justement jeter le premier la pierre. La loi n'avait jamais soulevé une telle question, mais Christ introduit une puissance et une portée et un caractère scrutateur qui n'avaient jamais brillé auparavant et qui ne peuvent maintenant être vus que dans lui et par lui. La loi disait simplement « Tu ne feras pas cela », mais ce n'est pas que celui de vous qui est sans péché. Et qui était celui qui n'avait pas de péché? Celui-là seul qui n'était pas venu pour condamner. La loi pouvait dénoncer, mais il n'y avait personne pour l'exécuter. Car si sa sentence avait été exécutée, ils auraient tous été des hommes morts, tous également laissés sous la condamnation de la loi, quoique pour des causes différentes. Ils se retirent dans une confusion sans espoir, et la femme fut laissée en la présence du Fils, qui brille avec la parole de Dieu comme la lumière sur l'âme. Dans tout le chapitre, ceux qui se tenaient sur le terrain de la loi sont manifestés comme esclaves du péché. Ils pouvaient se vanter d'être enfants d'Abraham, mais ils ne faisaient pas ses œuvres. Et certes, Abraham, qui n'avait pas même connu cette loi dont il se vantait, avait connu, lui, le jour de Christ. Il avait vu la lumière de Dieu et avait tressailli de joie de voir ce jour-là. Ici donc, lorsque l'homme orgueilleux et coupable est banni de la présence de Christ, il se présente à celle qui, extérieurement, était plus coupable, avec rien d'autre que la miséricorde. Cela découle de ses droits divins comme fils de Dieu, employant la parole de Dieu et non la loi. La loi, au contraire, condamne et tue toujours, et ne peut que mettre l'âme dans la servitude. Mais c'est la prérogative de Christ, et de Christ seul, de donner la vraie liberté. C'est le Fils qui a franchi. La liberté que nous recevons découle de sa parole. Ainsi, c'est par la foi, parce que la foi est de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole de Dieu. Ces choses vont toujours ensemble, le Fils de Dieu opérant par la parole, et celle-ci reçue par la foi dans l'âme. Mais il y a un autre point de vue qu'il appartenait spécialement à l'apôtre de présenter. C'est que Christ a accompli une œuvre en vertu de laquelle ceux-là même qui étaient sous la loi sont amenés complètement hors de son domaine. Et quant à ceux qui précédemment n'étaient pas sous la loi, c'est-à-dire les gentils, il est démontré qu'ils pèchent contre la miséricorde qui leur est faite, si de quelque manière ils passent sous son joug. C'est à ce point qu'est arrivé l'apôtre Paul dans notre épître. « Tenez-vous donc ferme, dit-il, dans la liberté dans laquelle Christ nous a placés en nous affranchissant, et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. » Rappelez-vous aussi ceci, que parmi les Galates, le caractère de la servitude n'était pas tant ce qu'on appelle la loi morale que la loi cérémonielle. Je sais bien que beaucoup croiraient que la dernière est beaucoup plus sérieuse que la première. Mais au contraire, la soumission du chrétien à la loi morale dénote un abandon beaucoup plus profond de la vérité que s'il s'agit de la loi cérémonielle. Parce que la loi cérémonielle, comme tout chrétien doit le sentir, tire toute sa signification et toute sa valeur du fait qu'elle est un type de Christ. Il n'en est pas ainsi des 10 commandements, qui ne sont pas un type de Christ, mais l'exigence directe de Dieu sur la force et la justice de l'homme, si l'homme en a. Et par conséquent, on peut comprendre qu'un chrétien vienne à s'embarrasser de types et d'ombres. Un esprit raisonneur pourrait dire, est-il possible de penser que la circoncision, sur laquelle Dieu a tant insisté avec Israël, doivent être abandonnées maintenant? Si elle n'eut jamais aucune valeur, pourquoi fut-elle prescrite à la semence d'Abraham? Et si elle était alors d'une telle signification et si obligatoire, pourquoi ne l'est-elle pas maintenant? D'ailleurs, Christ n'enseigne-t-il point qu'elle n'était pas de Moïse, mais des pères? Tout cela peut fournir une plateforme plausible pour les sentiments et les arguments humains. Mais l'apôtre était conduit par le Saint-Esprit à traiter la question de l'introduction du moindre élément de la loi. Prenez la circoncision, le type de la mortification de notre nature. La chose est devenue vraie de tout croyant dans la mort de Christ. Mais les croyants auraient pu dire, il doit aussi y avoir la reconnaissance extérieure de cela. Pourquoi ne pas retenir le rite qui nous relie à Abraham, Isaac et Jacob? Nous sommes faibles et oublieux. Pourquoi ne pas maintenir ce que les anciens estimaient si profondément, tout en jouissant aussi de la bénédiction qui est nouvelle? Mais l'apôtre traite la chose d'une manière décisive dans cette épître. Quel que soit l'usage auquel Dieu ait appliqué la circoncision avant Christ, il disparaît maintenant. Christ nous a placés dans la liberté en nous affranchissant. Tenez-vous donc ferme, et ne soyez pas de nouveau retenus sous un joug de servitude. Voici, moi Paul, je vous dis que si vous êtes circoncis, Christ ne vous profitera de rien, c'est-à-dire si vous êtes circoncis après cela. Il n'était pas question de ceux qui l'avaient déjà été. Mais si eux, comme chrétiens, la recherchaient, Christ ne vous profitera de rien. Il ne veut pas dire que si quelqu'un avait fait l'erreur énorme d'être circoncis, cela ne pourrait pas lui être pardonné, mais que s'il se soumettait maintenant à cette ordonnance comme nécessaire à leur complète justification, l'efficace de Christ était rendue nulle pour eux. Ainsi, non seulement Christ est un parfait sauveur, mais il est un sauveur exclusif. Essayer d'ajouter à Christ, c'est au fond détruire le salut par Christ. Ce principe est très important, parce que vous trouverez que c'est constamment la ressource de l'ignorance de dire, « Eh bien, nous retenons tous la même chose à un certain degré. La seule différence, c'est que je crois quelque chose de plus que vous. » Oui, mais ce quelque chose de plus, c'est éteindre la foi et annuler la valeur de Christ. Introduisez ce que vous voudrez, peu importe quoi, comme devant nécessairement être fait par vous, nécessaire comme moyen d'être justifié devant Dieu, et, avertit l'apôtre, voici, moi, Paul, je vous dis, Christ ne vous profitera de rien. Il y a plus. Voyez la circoncision que Dieu a instituée autrefois avec une solennité particulière, menaçant de mort celui qui ne s'y soumettrait pas. et voyez maintenant comment ce même Dieu, après avoir donné Christ, met fin à tout cela. La circoncision avait rempli son office, et maintenant, l'introduire de nouveau, ce serait obscurcir, déshonorer, et même détruire l'œuvre de Christ. Dieu avait montré par elle, en figure, que le vieil homme devait être traité comme une chose vile et morte. Mais Christ est venu, et il n'y a pas maintenant un simple processus disciplinaire sur le vieil homme, mais une nouvelle création. Et l'idée de mêler quelque chose qui serait faite au vieil homme avec la nouvelle création comme moyen de justification offense à un haut degré l'Esprit de Dieu. Voici, moi, Paul, je vous dis que si vous êtes circoncis, Christ ne vous profitera de rien, et je proteste de nouveau à tout homme circoncis qu'il est tenu d'accomplir toute la loi. Vous pouvez distinguer entre la partie cérémonielle, qui avait une signification si bénie, et la partie morale, par laquelle, comme vous l'admettez, l'homme ne peut être justifié. Mais vous ne savez pas ce que vous faites. Vous ne pouvez pas séparer la circoncision de la loi. Dieu a incorporé ce rite si formellement dans toute la structure de la loi que, quoiqu'il ait existé auparavant, il en est devenu ensuite une partie intégrante, et dès lors il s'amalgame si intimement avec elle que vous ne pouvez séparer le rite du système entier. Si vous reconnaissez une partie quelconque du rituel comme ce à quoi vous êtes assujetti, vous êtes responsable à l'égard de tout le système légal en général. Vous êtes débiteur quant à tout ce qu'il demande. Et je désire appeler solennellement votre attention sur ce point, vous êtes tenu d'accomplir toute la loi. Tout chrétien, donc, n'est-il pas ainsi tenu? Qu'ainsi n'advienne. C'est une fausse doctrine. S'il l'était, ce serait un homme perdu. Je sais bien qu'il y en a qui ne comprennent pas ceci, qui croient que Christ, à part le fait qu'il apporte le pardon, est simplement un moyen de les fortifier pour garder la loi. Mais c'est une ignorance triste et fondamentale du christianisme. Un chrétien a-t-il donc la liberté de violer la loi? Je m'écris encore plus hautement, qu'ainsi n'advienne. C'est une chose d'être tenu d'accomplir toute la loi, et une autre que Dieu puisse traiter légèrement aucune violation de la loi. Ne peut-il donc rien y avoir entre ces deux conditions, l'obligation d'accomplir la loi et la liberté de la violer? Ni l'une ni l'autre ne s'accordent avec la position du chrétien. Celui qui est libre de faire sa propre volonté est un homme inique et méchant. Celui qui est sous la loi pour l'accomplir représente la condition propre du juif et de nul autre. Le chrétien est sur un terrain entièrement différent. Il est sauvé par grâce et il est appelé à marcher dans la grâce. Et le caractère de justice que Dieu cherche en lui est d'une toute autre nature. Ainsi qu'il est dit aux Philippiens, étant rempli du fruit de la justice qui est, non par la loi, mais par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu, par Christ sous la grâce et non sous la loi. Et ce n'est pas seulement une question de justification. Je parle maintenant de la marche, de la responsabilité du chrétien de faire la volonté de Dieu. Et je dis que c'est Christ, et non la loi, qui est la mesure de la marche du chrétien, ce qui fait toute la différence possible. On dira peut-être, Christ n'était-il pas sous la loi? Oui, assurément, mais il était en même temps au-dessus de la loi. Le chrétien, le gentil, n'a jamais été sous la loi, et, ayant été placé en Christ maintenant qu'il croit, il se trouve sur un autre terrain, auquel la loi ne s'applique point. Pour cette raison, tout chrétien, peu importe qui il était ou ce qu'il était, est regardé par Dieu comme d'entre les morts étant fait vivant, afin de porter du fruit pour Dieu. La loi n'a affaire à l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit, jamais après qu'il est mort. Mais vous êtes mort et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Et il est à remarquer que c'est nullement ce qui est dit de nous après une seconde bénédiction, l'extrême onction ou tout autre degré de perfection imaginaire. C'est par là que nous commençons et notre baptême le déclare. Ce que ce baptême présente, c'est la mort de Christ et sa résurrection. Et s'il a pour moi quelque signification, il dit que je suis identifié avec Christ mort et ressuscité. Ce n'est plus la loi agissant avec moi pour essayer si elle peut tirer de moi quelque chose de bon. J'ai tout abandonné en recevant Christ, et je prends ma place en me fondant sur Christ mort et ressuscité, et je suis baptisé pour son nom, comme d'entre les morts étant fait vivant, pour me livrer moi-même à Dieu. Or ce n'est pas là quelque doctrine obscure qui exige une connaissance profonde de la parole de Dieu. Elle n'est pas cachée sous quelque tournure compliquée ou sous quelque figure dans un livre difficile, mais clairement présentée dans l'Épître aux Romains, et c'est là la doctrine invariable. Ainsi, où que vous regardiez, la vérité fondamentale du christianisme, c'est que Dieu a cessé d'avoir simplement affaire à la chair. Il a un autre homme, un homme nouveau, Christ ressuscité d'entre les morts, et c'est lui que le chrétien a reçu. C'est là pratiquement ce que Dieu veut réaliser dans le cœur du chrétien. Marchez en lui. Un jeune chrétien peut être abattu après avoir reçu Christ par le sentiment du mal qu'il découvre en lui-même. Il se demande comment cela est possible. Il sait combien Christ mérite qu'on le serve, et il sent en lui-même combien peu il le sert comme il le devrait. Il est rempli de tristesse à l'égard de lui-même, et il commence peut-être à douter s'il est vraiment un chrétien. Il n'a pas encore appris sa leçon. Il ne connaît même pas à fond ce que son baptême proclamait, la valeur d'avoir un sauveur qui est mort et ressuscité. Il est encore occupé de quelque chose qui est du vieil homme. Il le considère et il s'attend à devenir meilleur, espérant que son cœur n'aura plus autant de mauvaises pensées, etc., qu'il avait autrefois. Tandis que la seule force du chrétien, c'est d'être rempli de Christ, de tout ce qui est précieux en lui devant Dieu. Dans la proportion où le saint jouit de Christ, il vit au-dessus de lui-même. Il y a l'exercice de ce en vertu de quoi le chrétien est considéré comme mort et ressuscité, la vie nouvelle que le Saint-Esprit communique à tous ceux qui croient. Seulement le croyant sent ce qui ne ressemble pas à Christ. Mais il se repose sur ce que Christ est pour Dieu, et cela le rend heureux. Quand il devient tout occupé de ce qui se passe au-dedans de lui, il est abattu. Ce n'est pas qu'il ne doive se juger pour ce qui est contraire à Christ, mais qu'il doit le traiter comme une chose vile et mauvaise, comme ce qui dérive de l'homme et non de Christ. Et alors, l'ayant confessé à Dieu, il doit s'en détourner résolument et s'attacher au Sauveur. Le croyant a acquis en Christ le droit de ne pas être abattu à cause de ce qu'il trouve au-dedans de lui, à ne pas être découragé parce qu'il n'habite point de bien en sa chair. N'est-ce pas là ce que la parole révélée de Dieu lui dit si constamment? Et pourtant, combien de personnes passent des mois et des années à attendre qu'il sorte quelque bien? Je ne veux pas dire naturellement qu'ils ne sont pas nés de Dieu, mais ils sont tellement sous l'effet de vieilles pensées et de vieilles notions, puisées dans des catéchismes, des livres de théologie et des sermons, qu'ils n'entrent pas dans la pleine liberté dans laquelle Christ nous a placés en nous affranchissant. Rien ne peut être plus clair que la décision du Saint-Esprit sur ce sujet. Il montre que si vous insistez, le plus faiblement que ce soit, sur la loi, sous quelque forme que ce soit, cela vous place sous l'obligation d'accomplir toute la loi. Et s'il en est ainsi, où en êtes-vous devant Dieu? Vous êtes perdu et sans espoir si vous avez une conscience. La question de la loi s'élève généralement maintenant en relation avec la sanctification. Dans le cas des Galates, elle fut soulevée avec insistance au sujet de la justification. Mais le chrétien n'a pas plus à faire avec elle sous une forme que sous une autre. Dans les versets 1 à 4, elle est liée à la justification. Dans la dernière partie du chapitre, elle se lie à la sanctification, ce qui est la liaison, et la seule liaison en Romains 6, où l'apôtre n'aborde pas la justification, mais seulement la marche du croyant. À ce sujet, il n'est pas sous la loi, mais sous la grâce. Quelle chose bénie que d'être dans cette vraie grâce de Dieu. Si je considère mon salut, il vient tout entier de sa grâce. Et si je me demande ce qui doit donner de la force à ma marche et à mon service, c'est exactement la même chose. La grâce est la source d'un bout à l'autre. Dieu ne change pas maintenant qu'il a révélé la plénitude de la grâce en Christ. Lancé dans cet océan, il ne reviendra pas à ce qui tendait à démasquer et châtier le vieil homme, quelque nécessaire que fût la tâche. N'est-ce pas une joie pour lui d'en avoir fini avec ce qui n'a jamais produit d'autre résultat en tant qu'il s'agissait de l'homme que de seulement écraser ceux qui avaient une conscience et de donner à ceux qui n'en avaient point une occasion d'établir une propre justice. Ceux qui étaient consciencieux gémissaient et étaient misérables, et ceux qui ne l'étaient pas étaient remplis d'eux-mêmes et de leur bonté imaginaire. Combien est donc triste l'abandon de la vérité dont nous sommes avertis ici. Vous vous êtes séparés de tout le bénéfice qu'il y a dans le Christ, vous tous qui vous justifiez par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Par ces dernières paroles, il ne veut pas dire qu'ils étaient tombés dans l'immoralité ou qu'ils s'étaient ouvertement écartés de Christ, mais ils avaient joint la loi à Christ comme moyen de justification. Et du moment que vous l'avez fait, vous avez laissé échapper le seul principe sur lequel Dieu peut vous tenir pour juste. Car Dieu justifie des pécheurs. Quelle gloire de Dieu! À celui qui ne fait pas des œuvres, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée à justice. Comment se fait-il donc, demandera-t-on peut-être, qu'il y ait encore des impies qui ne soient pas justifiés? Parce qu'ils ne croient pas que Dieu est aussi bon qu'il l'est, parce que le don de Christ est trop grand pour eux, parce que leur confiance est en eux-mêmes, ou du moins ils n'ont pas de confiance en Dieu. Et la raison pour laquelle ils n'en ont pas, c'est qu'ils ne croient pas ce que Christ est pour le pécheur. Lorsque je connais sa gloire et sa croix, lorsque je sais qu'il a mis tout cela dans la balance en faveur de la pauvre âme qui va à lui à cause de ses péchés, alors je vois qu'il est impossible que Dieu ne puisse sauver celui qui se tient du même côté de la balance que Christ. Et c'est ce que fait l'âme qui croit en Christ. Le pécheur peut être aussi léger que la plume, mais ce n'est pas sur son propre poids qu'il se repose, mais sur ce que Christ est, sur ce que Christ a fait. Dieu a confiance dans l'œuvre de son Fils, et le pécheur aussi. C'est là la foi. Le croyant est un homme qui ne se confie plus en ses propres œuvres, ni en ses propres sentiments, et dans l'estimation que Dieu fait de la croix de son Fils, Dieu étant non seulement plein de grâce, mais juste en cette chose même. J'ai besoin de savoir que j'ai, par Christ, ce par quoi Dieu est glorifié en me bénissant ainsi. Et c'est pourquoi il est ce qu'il est, juste en justifiant mon âme. Si j'ai Christ, Dieu est tout aussi juste en me justifiant qu'il le serait en me condamnant si je n'avais pas Christ. La justice de Dieu qui condamnerait le pécheur est la chose même qui, en Christ, justifie le pécheur. Mais alors, elle assure aussi la sainteté. Ce n'est pas seulement une robe jetée sur lui, mais il y a en même temps une vie nouvelle. Et je reçois cette vie nouvelle en recevant Christ. En un mot, nous avons la justification de vie en lui. Et quel est le caractère de cette vie? Elle n'est pas la même que celle d'Adam. Cela n'irait pas, parce qu'Adam tomba après qu'il eut reçu la vie. Mais Christ laissa sa vie, afin qu'il la reprît en résurrection. Et dès lors, nous ne perdons jamais la vie qu'il nous a donnée, une vie qui porte l'empreinte de sa victoire sur le tombeau. En fait, notre vie est Christ ressuscité d'entre les morts. Il n'est donc pas étonnant qu'elle soit éternelle et que nous ne puissions jamais périr. Elle est la vie de celui qui est ressuscité, sur lequel la mort n'a plus d'empire. Et telle est, en conséquence, la position du croyant. Naturellement, comme fait physique, il se peut qu'il passe par la mort. Mais nous parlons ici de la vie devant Dieu, qui est communiquée à l'âme. Et cette vie est la vie éternelle de Christ, après qu'il eut ôté nos péchés sur la croix. Aussi l'apôtre conclut ainsi le sujet entier. Nous, par l'esprit, sur le principe de la foi, nous attendons l'espérance de la justice. Ce n'est pas que nous, par l'esprit, nous attendions d'être justifiés, mais nous, par l'esprit, sur le principe de la foi, nous attendons l'espérance de la justice. Et quelle est cette espérance? C'est la gloire de Christ. Nous avons la justice, mais nous n'avons pas encore l'espérance de la justice. Nous avons Christ lui-même, mais l'espérance de la justice, c'est l'espérance à laquelle la justice en Christ me donne droit. Nous sommes devenus justice de Dieu en Christ. Mais quelle est l'espérance de la justice? C'est l'espérance de la gloire de Dieu, comme il est dit dans Romains 5, « Ayant donc été justifiés sur le principe de la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par lequel nous avons trouvé aussi accès, par la foi, à cette faveur dans laquelle nous sommes, et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. » Dans le premier verset, c'est la justice. À la fin du deuxième, c'est l'espérance, l'espérance de la justice. Et qu'est-ce que cela? C'est que je serai avec Christ dans la même gloire qu'il a. C'est ce que le croyant attend. Et dans l'intervalle, il a l'Esprit de Dieu, non seulement pour agir dans son âme, mais afin que par lui nous attendions l'espérance de la justice. Nous n'avons pas encore cette espérance vue et possédée, et par conséquent c'est entièrement une question de foi. Mais l'Esprit de Dieu qui habite en nous, nous donne à connaître que, possédant la justice, étant déjà justifiés, nous aurons une espérance en accord avec cette justice. De même que nous avons la justice de Dieu, nous aurons la gloire de Dieu. En sorte que rien ne peut être plus béni que la position dans laquelle le croyant est placé ici par l'apôtre. Les Galates espéraient être justifiés, mais il dit « Vous êtes déjà justifiés, et si vous pensez rendre les choses plus sûres par la circoncision, vous perdez tout, et vous vous placez dans l'obligation d'accomplir ce qui ne peut vous assurer qu'une malédiction. Tandis que, nous, par l'esprit, sur le principe de la foi, nous attendons l'espérance de la justice. Nous attendons la gloire, l'espérance de la justice. Car, dans le Christ Jésus, ni circoncision ni incirconcision n'ont de valeur, mais la foi opérante par l'amour. Maintenant, il montre, en passant seulement, qu'il y a une très grande réalité dans la condition morale du croyant. Ce n'est pas seulement qu'il a la justification et qu'il aura bientôt une espérance en harmonie avec cette justification, mais cette foi même qui lui fait connaître qu'il est justifié et lui donne aussi de regarder en avant, attendant la gloire à laquelle il est destiné, cette foi dans l'intervalle opère par l'amour, non par la loi. C'est ici qu'il va nous amener à la question de la sanctification pratique, et il montre que le croyant n'a pas besoin de se mettre sous la loi, parce que, si sa foi opère par l'amour, elle accomplit ce que la loi cherchait, mais qu'elle ne pouvait jamais ni effectuer ni recevoir. L'apôtre ne veut pas dire du tout que, quoique le croyant soit ainsi justifié, et qu'il attende la gloire, il n'y a rien en attendant qui opère en son âme. C'est une chose puissante et qui a de l'influence. Mais, alors, elle opère par l'amour. Son origine et son repos sont dans l'amour de Dieu. Elle connaît le salut découlant de cet amour. L'amour de Dieu manifesté en Christ remplit le cœur du croyant. Il a une espérance qui ne rend point honteux. Et pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est versé dans son cœur. Et je prends cet amour de Dieu dans sa signification la plus étendue possible. D'abord, comme l'amour de Dieu envers nous, et ensuite, comme notre amour envers lui. C'est la plénitude du sentiment de l'amour de Dieu en nous, et l'effet est de nous rendre capables d'aimer Dieu, et tout le monde aussi. Si des personnes sont complètement heureuses elles-mêmes, elles ne peuvent s'empêcher d'aimer les autres. Voilà donc le principe sur lequel le croyant est placé. Il est déjà justifié. Il attend la gloire, et dans l'intervalle, il y a la foi opérante par l'amour. Ainsi, il n'est pas question de circoncision. Nous sommes chrétiens, et par conséquent, toute la base de la loi et de ses questions a disparu. Comment cela se fait-il? Par une raison bien bénie. Car, dit l'apôtre, dans le Christ Jésus, ni circoncision ni incirconcision n'ont de valeur, mais la foi opérante par l'amour. La première avait beaucoup de valeur pour la chair, et il y avait une importante leçon enseignée par elle. Mais il parle de ce qui est dans le Christ Jésus. C'est la position d'un chrétien. Il n'est pas dans la chair, il l'était autrefois. Et quand nous étions dans la chair, les passions des péchés, lesquelles sont par la loi, agissaient dans nos membres pour porter du fruit pour la mort, expression qui montre de la manière la plus forte possible que nous ne sommes pas dans la chair maintenant. Ne comprenez-vous pas cela? Si vous dites à une personne que vous étiez autrefois à la campagne, cela implique que vous n'y êtes pas maintenant. Ainsi, quand l'apôtre dit « quand nous étions dans la chair », il veut dire qu'il était dans la chair avant de connaître Christ. Mais maintenant, il n'est plus dans la chair, bien qu'il ait la chair en lui. Dieu nous voit dans une autre condition. Nous avons la vieille nature, mais nous possédons une nouvelle nature, en vertu de laquelle Dieu dit « vous n'êtes pas dans la chair ». Car nous étions dans la chair, nous n'étions pas délivrés, nous n'avions pas saisi Christ. Mais maintenant que nous sommes à lui, nous ne sommes plus dans la chair. Nous devrions tenir ferme cette vérité et nous réjouir en elle. Si une personne manque, c'est une raison de plus pour qu'elle ne cède pas aux nouvelles suggestions de l'ennemi. Nous devrions toujours tenir ferme cette vérité que nous ne sommes pas dans la chair, plus particulièrement encore parce que ce n'est pas à notre propre louange. Au contraire, c'est la chose même qui aggrave notre péché et qui nous fait avoir encore plus honte de nous-mêmes. Si vous êtes dans la chair, il n'est pas étonnant que vous agissiez selon la chair. Mais si vous n'êtes pas dans la chair, alors ayez honte lorsque vous agissez comme si vous y étiez. Dieu insiste sur cette bénédiction en nous la présentant dans le but exprès de nous faire sentir plus profondément notre manquement si nous venons à manquer. Nous ne sommes pas dans la chair, et c'est pour cela que nous ne devrions jamais céder à la chair. Mais quand nous le faisons, nous devrions le sentir et le confesser avec humiliation devant Dieu, mais ne pas cesser de tenir ferme Christ et sa vérité. Cela est vrai de tout chrétien, quoique je sache qu'il y a beaucoup de chrétiens qui diraient qu'ils ne peuvent pas recevoir un seul mot de cela, que tout cela est du mysticisme, etc. Mais c'est une consolation de savoir que Dieu dit chaque mot de cela à leur sujet. Il est possible qu'ils ne puissent s'en appliquer à eux-mêmes la consolation. Mais quelle chose bénie que les chrétiens aient affaire à Dieu et non à eux-mêmes. C'est pour cette raison qu'ils ne sont pas consumés. Nous prouvons que nous sommes tout aussi faibles et insensés que le fut Jacob, cédant si souvent à la chair et permettant aussi à notre propre esprit d'agir. Mais nous sommes Israël, et cela dans un sens encore plus élevé. Nous avons prévalu à cause de celui en qui nous sommes devant Dieu. Vous courriez bien. Qui est-ce qui vous a arrêté pour que vous n'obéissiez pas à la vérité? La persuasion ne vient pas de celui qui vous appelle. Il leur reproche d'avoir prêté l'oreille à ces faux docteurs qui avaient insisté sur la circoncision. Un peu de levain fait lever la pâte tout entière. N'est-il pas solennel de voir que l'expression même de « levain » qui est employée dans 1 Corinthiens pour décrire une horrible corruption morale caractérise dans l'épître aux Galates l'introduction du système légal parmi les enfants de Dieu? Dieu la traite comme une chose des plus offensantes. En fait, le ton du Saint-Esprit en écrivant aux Galates est même plus sévère qu'en s'adressant aux Corinthiens. Parce que, si les Corinthiens étaient coupables de ce qui était beaucoup plus blâmable aux yeux des hommes, les Galates étaient tombés dans une erreur qui sapait plus profondément les fondements de la grâce de Dieu. Et un homme spirituel juge invariablement le péché, non d'après ce que l'homme en pense, mais d'après ce que le péché est aux yeux de Dieu. Après en avoir fait ressortir le caractère, il dit « J'ai confiance à votre égard par le Seigneur, que vous n'aurez point d'autres sentiments. » Il ne pouvait dire cela de chacun d'eux. Il le dit d'une manière générale. Et il ajoute « Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera le jugement. » Il veut les séparer et donner un sentiment d'horreur à l'égard de ceux qui les avaient égarés. La foi opérante par l'amour n'hésite pas à employer un langage fort au sujet des corrupteurs de l'Église de Dieu, les dénonce de la manière la plus énergique et comme un devoir envers Dieu et envers les hommes. Je voudrais que ceux qui vous bouleversent se retranchassent même. Celui qui vous trouble, quel qu'il soit, emportera le jugement. Il y en avait plusieurs qui s'employaient à cette mauvaise œuvre. Mais moi, frère, si je prêche encore la circoncision, pourquoi suis-je encore persécuté? Ils avaient fait de l'apôtre Paul une sorte de preuve en leur faveur. Ils peuvent avoir tiré avantage du fait qu'ils avaient circoncis Timothée pour mettre en évidence une contradiction entre ses actes et sa prédication. Mais Paul n'avait pas agi contrairement à ses principes lorsqu'il circoncit Timothée. C'était l'élasticité d'un homme qui pouvait fermer la bouche aux objecteurs. Et Paul, pour réduire au silence les calomnies juives, trancha cette question d'une manière fort peu juive, en circoncisant Timothée. Mais il ne voulut pas l'admettre dans le cas de Tite, qui était grec, qu'il prit avec lui à Jérusalem. Cela pouvait paraître capricieux, mais la grâce connaît le moment pour être ferme aussi bien que pour céder. Il semble y avoir ici une allusion à cela dans son raisonnement avec les défenseurs de la loi. La chose exige la sagesse de l'Esprit de Dieu qui nous donne à connaître quand nous pouvons user de notre liberté ou quand c'est un devoir de demeurer ferme comme un roc. Et Paul fit l'un et l'autre. Si Timothée avait été circoncis, c'était la grâce arrêtant des questions purement charnelles, et non la loi, car son père était grec. Mais quant à prêcher la circoncision, une telle chose était loin de son esprit. S'il avait jamais insisté sur la circoncision, il aurait joui de leur faveur et de leur appui dans tous les lieux qu'il visitait. Au contraire, il était persécuté, parce qu'il ne voulait rien céder à la chair, ni reconnaître les droits de la circoncision. La dernière portion du chapitre s'occupe de l'autre sujet, savoir la loi comme réglant la marche. Ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est le rejet de la circoncision et de la loi, comme ayant une place quelconque dans la justification. Si vous en admettez le principe dans un seul détail, vous êtes tenu d'accomplir toute la loi. Arrivé à cette division naturelle, l'Esprit de Dieu revient à la pensée de liberté par laquelle il avait ouvert le chapitre. Elle est présentée sous un double point de vue. Dans la première partie, nous avons eu la liberté comme une question de justification. Maintenant, nous avons la liberté comme ce qui conduit à la sainteté pratique, et qui devrait toujours être lié avec elle. car il faut nous rappeler que c'est ce qui forme le sujet du reste du chapitre. Or, il y a beaucoup de personnes qui comprennent plus ou moins que Christ nous a apporté la liberté en matière de justice, ou quant à la position d'hommes justifiés aux yeux de Dieu. Mais ils ne connaissent pas la liberté dans la marche avec Dieu chaque jour. Et quand je dis « beaucoup de personnes », je veux dire « beaucoup de chrétiens », beaucoup de ceux qui sont réellement des saints. Dans de tels cas, la sainteté pratique souffre invariablement. Lorsqu'avec cela il y a beaucoup de conscience, la chose revêt nécessairement la forme légale d'ordonnance, de restriction et autres choses semblables. Ou bien, quand les âmes n'ont point les mêmes exercices intérieurs, elle prend la forme de relâchement à un degré plus ou moins grand, c'est-à-dire qu'elles voient qu'elles sont délivrées par la grâce de Dieu, et elles se considèrent libres d'user de ce monde et de laisser agir, dans une assez grande mesure, les penchants de la nature, parce que, comme ils disent, il y a du mal dans la nature, et ils supposent que Dieu, dans ses grandes compassions, y a égard. Or, ces deux choses sont totalement fausses. Une des causes de toute cette erreur se trouve dans le fait d'avoir mal saisi une vérité très importante, l'effet de la présence du Saint-Esprit envoyé du ciel. Et pourtant, dans les Actes et dans les Épîtres, toutes les exhortations, la marche qui y est présentée, le culte que le Nouveau Testament enseigne, toute l'expérience des chrétiens, en un mot, qui y est dépeinte et sur laquelle il insiste, tout est fondé sur la présence du Saint-Esprit. Lorsqu'on n'entre pas dans cela, il en résulte que les enfants de Dieu doivent ou supposer que Dieu leur permet une certaine latitude, ce qui n'est qu'un autre mot pour l'indifférence, ou recourir au juste frein que Dieu a mis à notre nature, et ce n'est qu'une autre expression pour la loi de Dieu. Or l'Évangile suppose que, quelque bonne et sainte et parfaite que soit la loi de Dieu, elle est entièrement sans puissance, soit pour justifier, soit pour sanctifier. Elle ne saurait en aucune façon améliorer la vieille nature, et elle n'est pas non plus la règle de la nouvelle nature. Le vieil homme ne s'y soumet pas, et le nouvel homme n'en a pas besoin. La nouvelle créature a devant elle un autre objet, et elle a une autre puissance qui agit sur elle, afin de produire ce qui est précieux et agréable aux yeux de Dieu, Christ étant l'objet, réalisé par la puissance du Saint-Esprit. Et quoique l'Esprit puisse sans doute employer chaque portion de la parole, qu'il ne m'arrive point de dire que la juste loi de Dieu n'a pas été mise dans la sphère des choses que l'Esprit peut utiliser. Je maintiens que la loi ne donne ni la forme, ni la mesure, ni le caractère, pas plus que la puissance de la sainteté chrétienne. C'est mal comprendre le dessein de Dieu en donnant la loi et l'usage légitime qu'on peut en faire aujourd'hui que de supposer qu'elle renferme le moule dans lequel Dieu façonne maintenant les âmes des saints. C'est le sujet que l'apôtre aborde et qu'il traite désormais dans notre épître. Nous avons vu la question de la justification entièrement réglée. Nous avons maintenant la marche ou la sainteté pratique. L'apôtre insiste de nouveau sur la liberté. Nous pourrions supposer qu'il en avait dit assez, après les avoir sommés de se tenir fermes dans la liberté dans laquelle Christ les avait placés en les affranchissant, et de ne pas être de nouveau retenus sous un joug de servitude. Mais non, dans le domaine de la sainteté, cette liberté est nécessaire tout autant que pour la justification. Et par conséquent, il dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté, c'est-à-dire cela caractérise notre appel. Seulement, dit-il, ce n'est pas la liberté comme une occasion pour la chair, ou vous ne pouvez pas vous livrer à la licence. N'usez pas de la liberté comme d'une occasion pour la chair, mais, par amour, servez-vous l'un l'autre. » Il avait montré plus haut qu'il y a une foi opérante par l'amour, comme cela est dit quelques versets auparavant. De même, maintenant, il montre que l'objet de cet amour devrait être de s'aider l'un l'autre. Ce n'est pas dans le but de vous mettre sous la loi, mais afin que vous vous serviez l'un l'autre. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ne venait-il pas d'essayer la loi? Et quel en avait été le résultat? Il dit, vous vous êtes mordus et vous vous êtes dévorés les uns les autres. Ce n'est pas là accomplir la loi, mais les convoitises. Quand les personnes parlent de la loi, ou veulent être docteurs de la loi, l'accomplissent-elles jamais? Elles commencent par des paroles pleines d'assurance, et elles finissent sans action et sans vérité. Tandis qu'au contraire, quand Christ est l'objet de l'âme, bien que la loi n'occupe pas l'esprit, elle est pourtant accomplie. Christ est la puissance de Dieu. La loi est la puissance du péché. J'ai exactement la même parole de Dieu pour me parler de Christ et de la loi. Et les deux passages sont dans la même épître, 1 Corinthiens. Mais il importe peu où le sujet est traité. Le grand point sur lequel le Saint-Esprit insiste, ce n'est pas que la loi n'était pas une bonne chose, mais que notre nature étant si horriblement mauvaise, aucun bien ne pouvait jamais être obtenu en appliquant la loi à notre nature mauvaise, sinon de la condamner. La question est, qu'est-ce qui fortifiera mon âme pour ce qui est bon? La réponse est, non pas la loi, mais Christ. La loi est excellente, je l'admets, mais vous venez de parler de la loi comme d'un moyen de marcher bien. Quelle sorte de sainteté avez-vous donc produite? Vous mordre et vous dévorer les uns les autres. Ce n'est pas de l'amour, mais c'est l'effet de votre emploi de la loi dont vous vous vantez. Mais si vous vous mordez et vous dévorez l'un l'autre, prenez garde que vous ne soyez consumés l'un par l'autre. Tel est le résultat. La loi est une puissance qui tue et détruit, non parce qu'elle est mauvaise, mais parce que notre nature l'est. Et rappelez-vous que la loi porte sur notre nature. La loi a été donnée non au nouvel homme, mais au vieil homme. Nous voyons là la sagesse de Dieu. La loi a été donnée pour provoquer le péché qui demeurait caché. Mais qu'est-ce qui devra donner de la force à la nouvelle vie et mettre en jeu ses affections? Qu'est-ce qui devra nourrir la nouvelle créature et l'amener à s'exercer de façon vivante? Ce n'est pas la loi. Mais l'apôtre nous dit plus. Il avait montré que l'amour était la somme et la substance de la loi. Si donc l'amour prévaut, la loi est accomplie. Mais parmi vous, il y a, au contraire, des disputes et des querelles et toutes sortes de mauvaises œuvres. Quel coup porté à leur vanité engendrée par le légalisme. Maintenant il va plus loin et leur adresse des paroles positives. Mais je dis, marchez par l'esprit, et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. L'action du Saint-Esprit n'est pas seulement pour convaincre de péché, ni comme la puissance pour régénérer. Tous les chrétiens reconnaissent cela, quelle que soit la distance qui les sépare sur d'autres sujets, ils ne peuvent que reconnaître la même vérité fondamentale que toute la puissance par laquelle une nouvelle nature nous est communiquée et par le Saint-Esprit. Quelques-uns peuvent tenir la vérité d'une manière plus intelligente et avec plus de soin quant à la forme, mais tous nécessairement reconnaissent le Saint-Esprit comme celui qui les convainc du mal qui est en eux et qui leur donne cette vie nouvelle qui est de Dieu. Mais ce n'est pas la question discutée ici. Les Galates avaient la vie nouvelle. Mais quelle devait être la puissance pour produire la sainteté chrétienne? Ils introduisaient la règle de la loi comme moyen de sainteté. Et l'apôtre la met entièrement de côté. Il dit, marchez par l'esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. Nous avons là la mise en garde divine, et même il y a plus que cela. Ce n'est pas seulement une admonition contre tel ou tel mal, mais ce qui nous donnera la puissance pour ce qui est bon. Marchez par l'esprit. Le Saint-Esprit a été envoyé ici-bas pour habiter dans le croyant. Ce n'est pas la vérité que nous sommes édifiés ensemble pour être une habitation de Dieu par l'Esprit, comme dans l'Épître aux Éphésiens, où nous trouvons aussi le corps de Christ présenté, les relations des enfants de Dieu comme membres de ce corps. L'Épître aux Galates ne nous donne jamais ce qui a rapport au corps, mais toujours ce qui est individuel. Et comme la marche est une chose individuelle, ou ce qui concerne chaque âme, quand même il n'y en aurait aucune autre dans le monde, c'est là ce dont vous avez besoin. Il est dit « marcher par l'Esprit ». L'apôtre ne dit pas « marcher par la loi ». Au contraire, il avait traité sévèrement les hommes qui étaient si zélés pour cette règle. « Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. Vous avez besoin de puissance contre la convoitise de la chair, l'Esprit est cette puissance, et il n'y en a point d'autre. Car la chair convoite contre l'Esprit, et l'Esprit contre la chair, et ces choses sont opposées l'une à l'autre, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. C'est là, je crois, ce que le Saint-Esprit a écrit et ce qu'il a voulu dire. Ce que nous lisons dans plus d'une version est positivement faux, comme plusieurs d'entre nous le savent depuis longtemps. Une note en bas de page, l'auteur fait allusion à la traduction « de sorte ou tellement que vous ne pratiquez pas les choses que vous voudriez ». Je ne veux pas omettre la chose ni l'introduire d'une manière cachée, mais partout où il y a quelque chose qui est évidemment pernicieux, dans les versions qui ne sont après tout qu'une œuvre humaine, c'est un devoir chrétien d'appeler l'attention là-dessus, et d'autant plus que je suis toujours prêt à maintenir l'excellence, en général, de la version anglaise qui est du nombre, et de la défendre contre les adversaires qui voudraient la déprécier. Mais ce n'est pas le rôle d'un ami de justifier ce qui est réellement une erreur, qui a pu s'y glisser par faiblesse humaine ou par quelque chose de pis. C'est donc ici une des méprises les plus graves pratiquement. Quand j'insiste là-dessus, c'est que ce n'est point une chose que je puisse admettre comme ouverte à la discussion ou sur laquelle il puisse rester le moindre doute. Aucune personne ayant une connaissance tant soit peu intime de la langue dans laquelle le Saint-Esprit a écrit ne pourrait hésiter, à moins d'être sous l'effet de forts préjugés. Je désire faire remarquer que les hommes les plus pieux, les savants les plus compétents, qui diffèrent peut-être de mes propres vues sur bien des choses que je juge importantes, même des personnes qui sont dignitaires dans l'Église, qui a eu la principale part dans la production de cette version, admettent franchement et d'un commun accord que la version que je viens de donner est seule véritable. Il n'y a aucun doute là-dessus dans l'esprit d'hommes qui ont les sentiments les plus opposés sur d'autres sujets, à l'égard du vrai sens de ce verset. Le Saint-Esprit dit donc, afin que vous ne pratiquiez pas les choses que vous voudriez. C'est même là toute la force du verset.
Il leur montrait pourquoi ils étaient appelés à marcher par l'Esprit et quel était le vrai préservatif contre la convoitise de la chair.
Car ces deux choses sont totalement opposées, elles sont contraires l'une à l'autre en toute manière. Il n'est pas dit « vous avez la loi afin que vous n'accomplissiez pas les convoitises de la chair », mais « comme vous avez une nature qui sera toujours encline à faire sa propre volonté, vous n'avez pas simplement la loi pour la réprimer, mais le Saint-Esprit est donné, non comme la loi, une chose en dehors de nous, mais le Saint-Esprit est une puissance au-dedans. Il s'identifie avec les affections de l'âme, et il donne la force au désir qui recherche ce qui est bon, et contre la convoitise naturelle, ou toutes les manières dans lesquelles la chair peut se montrer. L'apôtre admet tout à fait qu'il y avait la chair, l'orgueil, la vanité, tout ce qui est mauvais. Mais, comme chrétien, vous avez le Saint-Esprit, et en marchant par l'Esprit, vous n'accomplirez point la convoitise de la chair. Bien que la convoitise de la chair soit là, vous avez l'Esprit aussi, afin que vous n'accomplissiez pas cette convoitise. Si ce qu'on trouve dans des versions, de sorte ou tellement que vous ne pratiquez pas les choses que vous voudriez, était correct, ce serait comme souffler le chaud dans un verset et le froid dans l'autre. Il leur aurait dit dans un verset qu'ils doivent marcher par l'Esprit, et dans le suivant qu'après tout ils ne peuvent le faire. Une telle traduction porte évidemment en elle-même sa propre réfutation. J'insiste d'autant plus sur ce point parce que c'est un point pratique pour les chrétiens. Sur des questions purement critiques, je ne songerai jamais à troubler l'esprit des gens. Il y a tant de choses qui sont de la plus profonde importance pour nos âmes devant Dieu chaque jour, que le moins nous nous occupons de points curieux et d'érudition, le mieux c'est. Mais lorsqu'il s'agit de corriger ce que tout chrétien érudit reconnaît être une erreur, il est évident que je serais coupable de maintenir une erreur grave si je passais légèrement sur un point comme celui qui nous occupe. Il y a une chose, je crois, qui a conduit à la confusion qui règne sur ce sujet. C'est que plusieurs ont supposé que la doctrine ici était la même qu'en Romains 7. Mais dans ce chapitre-là, après les 6 premiers versets, le Saint-Esprit nous donne l'expérience d'une personne troublée sous la loi. En conséquence, nous ne voyons pas que l'Esprit de Dieu y soit du tout introduit. C'est un fait remarquable qui explique la différence entre cette portion-là de l'Écriture et ce que nous avons ici. Là, c'est un homme renouvelé, une âme réellement née de Dieu, mais un homme qui, tout en haïssant le péché comme nul homme inconverti ne le fait, aime la justice parce qu'elle est de Dieu et a le mal en horreur. Pourtant, malgré tout, le mal qu'il ne voudrait pas, il le fait, et le bien qu'il désire ne se fait jamais. Il a appris le mal qui est dans le péché, et il voit le bien qui est dans la justice, mais il est entièrement impuissant. Quelle est la cause? Le Saint-Esprit montre que la raison est qu'il n'a que la loi devant lui. C'est un homme converti, mais luttant sous la loi. Et l'effet est que l'homme est complètement abattu. Bien loin de lui donner du courage et de faire ressortir ce qui est en Christ, la loi ne fait que le prendre sur le fait ici et là, d'un côté faisant pénétrer la sonde et d'un autre le poignardant, de sorte qu'il est tout troublé en découvrant en lui une telle somme de mal qu'il n'aurait jamais pensé pouvoir exister dans le cœur d'une personne convertie. Nous en connaissons tous quelque chose. Il n'y a pas longtemps que nous suivons Christ si nous n'avons pas connu quelques luttes amères. La conséquence est que tout ce que cette pauvre âme peut dire, c'est « Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Nous aurions pu penser qu'un chrétien aurait dit « Il y a longtemps que j'ai été délivré. » Mais remarquez bien ceci, il ne se repose pas sur le libérateur en tenant son œil fixé sur lui. Il est converti, mais il ne connaît pas la liberté. Il a la foi dans le Sauveur, mais il ne comprend pas l'application de la mort et de la résurrection de Christ à sa condition. Il ne sait pas qu'il n'est plus considéré comme étant dans la chair, mais dans l'esprit, qu'il a le droit d'en avoir fini entièrement avec sa vieille nature et de se voir en Christ devant Dieu. Au moment où il arrive à cette découverte, que c'est une méprise d'appliquer la loi à son âme, il rend grâce. Avant cela, il s'écrie dans l'intensité de son agonie, « Misérable homme que je suis !» Et pourtant, alors même se présente cette nouvelle pensée venant de Dieu, « Qui me délivrera ?» J'y suis maintenant. Je vois que ce n'est pas ma propre lutte avec la loi pour vaincre le mal. Je vois qu'il y en a un autre, un libérateur. En conséquence, il peut se tourner vers Dieu avec reconnaissance même l'instant d'après et dire « Je rends grâce à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur ». Après cela, il est heureux, parfaitement heureux, en dépit de la conscience que la vieille nature est toujours au-dedans de lui. Qu'est-ce qui le rend heureux? Il voit qu'il y a deux choses distinctes. La vieille nature qui, si on lui permet d'agir, sert toujours la loi du péché, et la nouvelle nature qui cherche toujours la volonté de Dieu, quelle qu'elle puisse être. Maintenant donc, il est à même d'entrer dans les grandes vérités du chapitre 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Et il le fait aussi d'une manière intelligente, car la loi de l'esprit de vie dans le Christ Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. » Il ne se contente pas de cette manière vague d'exprimer la chose, « nous a tous affranchis », mais il dit « m'a affranchi ». Ce n'est pas une confession de foi générale, mais la vérité est appliquée de la manière la plus positive aux besoins personnels de l'âme qui luttait naguère. Il n'y a plus aucune servitude maintenant qu'il voit que Christ est ressuscité. Pourquoi est-il ressuscité? Comme le chef d'une famille, il est ressuscité pour me donner un nom et une position entièrement nouveaux. Il est descendu sous l'océan de mes péchés et il est ressuscité au-dessus d'eux. Ce qui était de moi le fit descendre, et s'il est ressuscité, c'est pour me ressusciter aussi avec lui. La résurrection de Christ n'avait pas pour objet de lui donner une position, mais de nous donner, de me donner une position. La mort de Christ était pour nous, pour ôter notre péché. La résurrection de Christ était pour introduire une bénédiction que rien ne peut atteindre. L'effet de la première venue de Christ, c'est que nos âmes entrent dans cette bénédiction. L'effet de sa seconde venue sera que nos corps libérés de toute trace de péché y entreront d'une manière parfaite, comme nos âmes le devraient maintenant. Si nous nous reposons sur lui, nous ne devons pas avoir un seul doute. La question n'est nullement si je trouve de la chair en moi. Si je n'en trouvais pas, ce serait plutôt une preuve que je ne suis pas un chrétien. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. Et encore, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur, et sa parole n'est pas en nous. C'est ici un cas plus grave, parce qu'il y a une déclaration claire et positive de l'Écriture contre la chose. Ainsi donc, ce qui distingue un chrétien, ce n'est pas qu'il n'a pas le péché au-dedans de lui, et qu'il a une nouvelle nature que nul ne possède, sinon celui qui croit en Jésus par le Saint-Esprit. En vertu de Christ, Dieu le considère comme quelqu'un qui en a entièrement fini avec le péché, comme cause du jugement de Dieu sur nous. Sous ce rapport, Dieu a entièrement terminé la question, mais non dans ses voies avec nous jour après jour. C'est là que la confession de nos manquements trouve sa place. Et ainsi, c'est une chose juste et bonne pour le chrétien de juger et de confesser son mal. Le fait que Dieu a entièrement pardonné à un homme toutes ses fautes n'ôte ni la nécessité, ni le devoir, ni le privilège de confesser à Dieu, jour après jour, la vérité quant à nous-mêmes. C'est une chose bien bénie que nous puissions le faire dans la confiance que Dieu s'intéresse à nous, que Dieu aime que nous allions à lui à l'égard de toutes choses. Nous devrions compter assez sur son propre amour pour déclarer tous nos manquements et les confesser devant lui. La loi disait « Tiens-toi loin ». Et si même une pauvre bête touchait la montagne, elle devait être lapidée ou transpercée d'une flèche. Ce que la loi disait à un, elle le disait à tous. Elle ne disait pas « S'il en est parmi vous qui soient des croyants, ils peuvent s'approcher ». La loi n'établit point de distinction entre croyants et non-croyants. Elle ne fait pas la part de l'infirmité humaine. Les hommes sont-ils pécheurs? S'ils le sont, alors ils sont maudits. Voilà la sentence de la loi. Elle n'a jamais rendu un homme juste, pas plus qu'une loi humaine ne produit l'honnêteté. Depuis le commencement du monde, il en est ainsi. Jamais homme ne fut rendu honnête par un acte de parlement. Ce qui amène les personnes à obéir, c'est Christ, entièrement au-dessus de la loi. La juste terreur de la colère peut réveiller, mais elle ne donne aucune puissance. De même, dans les choses terrestres, il faut qu'il y ait un principe au-dessus de la crainte d'être envoyé dans une maison de correction. S'il n'y a que cette terreur qui empêche un homme de voler, il est un fripon. Il en est précisément ainsi du croyant. Ce qui fait d'un homme un chrétien, le fait marcher habituellement comme un chrétien. C'est la puissance de l'Esprit de Dieu révélant Christ. Allez-vous retourner à la loi pour maintenir votre âme en ordre? Il aurait bien mieux valu que vous ayez été rempli de Christ, marchant par l'Esprit. Car que fait l'Esprit? Il glorifie Christ. C'est toujours là la vraie pierre de touche. La puissance d'une chose n'en est pas sa pierre de touche. Si un homme parlait beaucoup de l'Esprit, et qu'en même temps il serve le péché et non Christ, qui aurait confiance en la chose? Il a pu se faire illusion. Un homme peut élever les prétentions les plus exorbitantes et dire qu'il a la puissance du Saint-Esprit agissant en lui ou dans le corps. Mais comment puis-je savoir si la chose est réelle? Considérons les épîtres de Jean, qui nous dit d'éprouver les esprits. Le grand critérium est justement ceci. Le Saint-Esprit, invariablement, glorifie Christ. Son objet n'est pas d'agrandir l'Église ou un ministre. Toutes ces choses découlent du mauvais usage que l'homme a fait des choses de Dieu. Je ne nie pas ici que l'Église est une place très importante, mais c'est parce qu'elle est le vase de l'Esprit de Dieu à qui elle est assujettie. La scène où le Saint-Esprit présente Christ. Si les prétentions humaines sont tolérées, ou si le monde est caressé, ce n'est pas l'Église de Dieu conduite par l'Esprit. Ce peut être l'Église de l'homme, ou l'Église monde, mais ce n'est pas l'Église de Dieu. Ce qui caractérise l'Église, c'est la vérité de la présence du Saint-Esprit confessée, reconnue et mise en pratique. Il peut y avoir des manquements comme il y en a dans un chrétien individuellement qui peut montrer de l'humeur, de l'orgueil ou de la vanité. Toutefois, il le sentira, et quand il est ramené à lui-même, quoique le Seigneur puisse quelquefois juger nécessaire de briser un homme entièrement, comme Job, pour lui faire connaître ce qu'il est. La véritable action du Saint-Esprit, soit dans l'individu, soit dans le corps, c'est d'exalter Christ. Et qu'il s'agisse des manquements individuels ou de ceux de l'Église, cela revient au même. Dieu ne permettra jamais qu'une assemblée qu'il reconnaît persévère dans le mal. Il sait comment châtier une assemblée chrétienne aussi bien qu'une personne chrétienne. Il agira à leur égard s'ils sont droits. Nous ne devrions nous inquiéter de rien, mais en toute chose exposer nos requêtes à Dieu par des prières et des supplications. Nous n'avons pas besoin d'être inquiets et éprouvés touchant ceci ou cela. Nous sommes souvent en faute en pensant à ce que nous pouvons faire en parlant aux personnes, tandis que si nous parlions beaucoup plus à Dieu et moins à l'homme, les autres n'y perdraient rien et nous y gagnerions, et Dieu serait beaucoup plus glorifié. Quoi qu'il en soit, ce que nous trouvons ici, c'est que l'Esprit de vérité est la puissance de la sainteté, que c'est l'Esprit de Dieu qui rend un chrétien capable de bien marcher et non la loi. C'est là le point auquel il les amène. Et ainsi, il conclut le sujet, « Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. » Il est clair que si le fait d'être sous la loi était le moyen de sainteté chrétienne, il aurait été dit « Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous êtes sous la loi » plutôt que « Vous n'êtes pas sous la loi ». Mais les hommes sont aveuglés. Quoiqu'ils prennent constamment les commandements, qu'ils les répètent et les enseignent, ils disent pourtant qu'ils ne sont pas sous la loi. Comment des personnes pourraient-elles être plus sous la loi que quand elles adoptent le langage des 10 commandements comme l'expression de leur propre relation devant Dieu? La chose est faite de nos jours aussi littéralement et expressément par des personnes chrétiennes qu'elle le fut jamais par les enfants d'Israël eux-mêmes. Si les gens disent que, tandis qu'ils agissent et parlent ainsi dans leur culte public, ils ne sont pourtant pas sous la loi, c'est évidemment tromper leurs âmes d'une manière bien terrible. Que signifie l'expression « être sous la loi » ? Que je reconnais que je suis sous cette règle, comme étant ce que Dieu m'a donné, la règle selon laquelle je dois vivre. Si quelqu'un usait de la loi dans le but de convaincre un pauvre homme impie de ses péchés, ce n'est pas être sous la loi. Mais si je prends les 10 commandements et que je demande à Dieu de me rendre capable de garder chacun d'eux, c'est confesser que je suis sous la loi. Puis-je donc violer la loi? Qu'ainsi n'advienne. Une telle alternative ne saurait émaner que de quelqu'un qui comprend bien peu de la grâce de Christ. Tous admettent que la loi est juste et bonne. La question est de savoir si le Dieu qui a donné la loi à Israël a donné ou non cette même loi aux chrétiens comme la règle selon laquelle ils doivent, nous devons, vivre. Je le nie. Il l'a donné à Israël. Ce qu'il a donné à l'Église, c'est Christ. Christ est donné à connaître dans toute la parole de Dieu. Et la chose selon laquelle le chrétien doit marcher, c'est la parole de Dieu tout entière. Et il doit être enseigné d'une telle manière qu'il manifeste Christ. Si vous la prenez seulement dans sa lettre, que dit l'Écriture? La lettre tue, mais l'Esprit vivifie. On peut prendre Exode 20 et tirer d'une portion de ce chapitre une déclaration de la grâce de Dieu. Quand Dieu donna la loi, il leur dit qu'il était le Dieu qui les avait retirés du pays d'Égypte et de la maison de servitude. On pourrait montrer comment nous sommes, nous aussi, délivrés de notre servitude. Dans cette mesure-là, c'est pure grâce. Mais du moment que vous mettez les chrétiens sous la loi, comme la règle selon laquelle ils doivent marcher, comme un Israélite jadis, vous faites le mal même que l'Épître aux Galates avait pour but de corriger, et cela même dont le Saint-Esprit dit que ceux qui sont conduits par l'Esprit ne font point. Si vous êtes conduits par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. C'est là ce que les hommes font à présent. Ils prennent le langage des commandements qui étaient destinés à Israël, et cela non pour convaincre de péché seulement, mais ils entreprennent de les garder comme renfermant les directives pour leur propre obéissance envers Dieu tous les jours. Toutefois, ils sont obligés de se débarrasser par des explications d'une bonne partie de la loi, par exemple le jour du sabbat. Ils gardent le jour du Seigneur, et ils font bien. Je le garde aussi, mais je nie qu'il soit le jour du sabbat, et je maintiens que le premier jour et le septième jour ne sont pas la même chose. L'Écriture met toujours le premier jour en contraste avec le septième. L'un est le premier jour de la semaine, l'autre le dernier. Le premier jour est une chose nouvelle, complètement en dehors de la loi. On croit que l'observation d'un septième jour est la chose importante. Or, ce n'est pas ce que Dieu dit, mais le septième jour. Et nous n'avons pas la liberté de changer les Écritures. Ce n'est pas là écouter la loi, mais la détruire. Qui a donné à l'homme la liberté de changer le en un? Surtout puisque ce changement fait une différence qui est de toute importance. Gardons-nous seulement de la tradition et cherchons à comprendre la parole de Dieu. Nier que la loi soit la règle de vie pour le chrétien est bien loin de porter atteinte à la sainteté. Le Saint-Esprit introduit un caractère plus profond de sainteté que ce qui était demandé dans les 10 commandements. Quand notre Seigneur dit « Si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens », il ne voulait pas parler d'une justice qui nous serait imputée, mais d'une vraie justice pratiquement. Le chrétien a une justice qui est réelle. Il est vrai que nous devenons justice de Dieu en Christ, mais que ce soit la seule justice du croyant, je le conteste. Le Saint-Esprit produit une œuvre réelle dans son âme, fondée sur l'œuvre du Christ, séparation du monde, dévouement à Dieu, obéissance et amour. Et toutes ces choses, non pas simplement d'après les 10 commandements, mais selon la volonté de Dieu telle qu'elle a été pleinement manifestée en Christ. Si quelqu'un soutient que parce que le Seigneur a gardé la loi, il ne fit rien d'autre, on le plaint. L'observation de la loi n'était qu'une faible portion de son obéissance. Et nous sommes appelés à être semblables à Christ dans son dévouement à Dieu à tout prix. Un premier principe du christianisme pratique est ainsi conçu. Si, en faisant le bien, vous souffrez et que vous l'enduriez, cela est digne de louange devant Dieu. c'est une chose entièrement inconnue dans le système légal. Dans les 10 commandements, nous trouvons que si un homme obéissait à ses parents, il jouirait d'une longue vie sur la terre. Il est de toute évidence que ce n'est pas là le principe sur lequel Dieu agit maintenant. Car nous avons tous connu des enfants très obéissants, enlevés dans leurs jeunes années. Est-ce que je nie par là qu'il y ait une vérité spirituelle importante que nous avons à recueillir de ce passage? Bien au contraire. Paul lui-même fait allusion à cette promesse. Nullement me semble-t-il comme un motif pour qu'un enfant chrétien obéisse à ses parents, mais comme une indication générale de la pensée de Dieu. C'était le premier commandement avec promesse. Je désire ajouter que les instincts spirituels des chrétiens vont au-delà de leur système, et quoique, sous le rapport de la doctrine, ils soient sous la loi, ils désirent marcher par l'esprit. Je n'ai pas un seul sentiment désobligeant contre ceux qui maintiennent un tel état de choses. Mais l'Esprit de Dieu en parle comme d'une très grave erreur et d'un très grand danger. Ce que nous devons donc faire, c'est de comprendre la pensée de Dieu, de la proclamer et d'y obéir. Si vous êtes conduit par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Les Juifs l'étaient. Partout où, dans l'Écriture, nous voyons le peuple de Dieu sous la loi, cela signifie toujours Israël. Si un homme se met maintenant dans une position juive, il prend sur lui cette responsabilité. Dans sa foi, il peut être un chrétien, mais quant aux formes et ordonnances extérieures, il est au moins à moitié juif. Nous devrions chercher qu'il soit chrétien et rien d'autre, afin d'en finir avec tout ce qui cache et obscurcit le caractère de Christ, et pourquoi ils doivent payer la triste peine, soit d'une insouciance de vie, soit d'avoir leurs cœurs abattus et pleins de doutes, au lieu de jouir de la liberté dans laquelle Christ nous a placés en nous affranchissant. Après cela, l'apôtre trace le contraste entre les œuvres de la chair et les fruits de l'esprit. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Il n'y avait aucune difficulté à les discerner, lesquelles sont la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les orgies et les choses semblables à celles-là. Vous avez ici la corruption humaine et la violence humaine. Vous trouvez la mention de l'idolâtrie et de la magie, et d'un autre côté les divisions et les sectes qui se rapportent à l'esprit de parti qui pourrait se trouver à l'œuvre même sous une profession extérieure de christianisme. Un enfant de Dieu peut tomber pour un temps dans l'une ou l'autre de ces choses mauvaises, mais il y a une sentence solennelle prononcée sur tout cela, au sujet desquelles je vous déclare d'avance, comme aussi je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Il les avertit maintenant, comme il l'avait fait quand il était avec eux, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Quelle que puisse être la difficulté, puissions-nous ne jamais douter, mais recevoir et tenir ferme, comme venant de Dieu, cette vérité, que Christ est la puissance de Dieu pour tous ceux qui croient. Il est la puissance de Dieu, non seulement pour la justification, mais pour le salut. Et le salut, tout en comprenant la justification, va bien au-delà, parce qu'il comprend toute la course d'un homme chrétien jusqu'à ce qu'il soit de fait dans l'état de résurrection avec Christ. Voilà la signification de ce verset. Travaillez à votre propre salut avec crainte et tremblement, non pas à votre propre pardon, mais à votre propre salut. Cela est dit à ceux qui ont déjà reçu le pardon. Ainsi, le salut, dans le sens dont il en est parlé ici, implique tout le conflit avec la puissance du mal que nous traversons. Nous savons que nous avons affaire à l'ennemi commun. Mais Dieu est à l'œuvre en nous pour opérer et le vouloir et le faire selon son bon plaisir. nous connaissons le profond intérêt et toute la bienveillance que Dieu a pour nous qui sommes engagés dans ce conflit. Nous combattons sous ses ordres, faisant sa volonté en cela aussi bien que dans toutes les autres choses. Dieu est si loin de nous laisser en aucune manière qu'il assure nos âmes qu'il se porte garant de nous garder à travers ce conflit jusqu'au bout. Mais il veut que nous ayons un sentiment solennel de la guerre avec Satan dans laquelle nous sommes engagés. Ensuite, nous avons, de l'autre côté, le fruit de l'esprit et l'amour. Il commence par l'amour, par ce qui est de Dieu, et qui découle directement de Dieu, et qui est la connaissance du caractère de Dieu plus que toute autre chose. Le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la longanimité, la bienveillance, la bonté, la fidélité. Tels sont les premiers et les plus importants effets produits par l'amour de Dieu. Puis ils descendent à ce qui touche plus particulièrement notre manière d'agir l'un avec l'autre, la douceur, la tempérance, parce que celle-ci suppose le frein mis à la vieille nature, le contrôle de soi-même que le Saint-Esprit opère dans l'âme à cause du Seigneur, en tant qu'elle est évidemment placée dans ce monde pour être une épître de Christ, en sorte que nous ne donnions pas un faux caractère à celui dont nous portons le nom. Mais toutes ces choses sont les fruits de l'Esprit. Et il ajoute, contre de telles choses il n'y a pas de loi. Quand la loi a-t-elle jamais produit ces choses? Ainsi, la loi ne condamnera jamais ceux qui marchent dans ces choses, comme il dit au sein de Rome au chapitre 13 de son épître, en parlant des gouverneurs et des magistrats. Or, veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien, et tu recevras d'elle de la louange, car le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. De même ici, contre de telles choses il n'y a pas de loi. Si vous produisez réellement ces fruits de l'esprit, il n'y a point de condamnation contre eux. La vieille nature est-elle donc oubliée? Ou la loi est-elle nécessaire pour la discipliner? C'est ce qu'on pense, selon la croyance humaine, mais la parole dit au contraire, « Or ceux qui sont du Christ ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. » Il montre que tous ceux qui sont du Christ ont passé par la grande question de ce qui n'était pas de lui. Ils ont crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Ils se sont soumis, par la foi, à la sentence de mort sur toute leur nature. Ils ont crucifié la chair. Nous savons, naturellement, que cela n'est réellement et pleinement fait qu'en Christ, que c'est à la croix de Christ qu'a eu lieu la crucifixion de la chair avec toutes ses convoitises. Dès lors aussi, cela est vrai de tout croyant. La chair, avec les passions et les convoitises, est une chose déjà mise de côté aux yeux de Dieu. S'il est vrai que nous sommes chrétiens, nous avons crucifié la chair avec ses passions et ses convoitises. S'il s'agissait même d'une personne tout récemment née de Dieu, elle pourrait dire qu'elle a crucifié la chair avec les passions et les convoitises. Mais on peut demander, n'ai-je pas à crucifier la chair? Je réponds, cela est déjà fait. Vous avez à le croire et à marcher dans la force que la foi vous donne. Quelle consolation de savoir que la chair est une chose jugée, que la sentence de mort a été exécutée sur elle. Qu'est-ce qui vous fortifiera plus que ceci, savoir que vous n'êtes pas vivant dans la chair maintenant, mais que vous êtes vivant dans l'esprit? Et, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi par l'esprit. Que ce soit là la règle par laquelle vous désiriez être dirigé, savoir que vous avez le Saint-Esprit qui habite en vous et qui veut vous fortifier en Christ. Que votre but soit de marcher selon un tel état de choses. Veuille le Seigneur nous accorder d'avoir la sagesse qui vient d'en haut, de savoir ce que nous sommes et ce que nous ne sommes pas, afin que, quel que soit le mal, quelle que soit sa force ou ses tendances, nous croyons qu'il y a la puissance du Saint-Esprit pour nous fortifier contre toutes les choses mauvaises et nous élever au-dessus d'elles. Mais le Saint-Esprit ne déploiera pas sa puissance, sinon dans la mesure où Christ est devant nous. Si nous cherchons à nous complaire à nous-mêmes en quoi que ce soit, nous trouverons seulement que Dieu se servira pour nous châtier de la satisfaction de nous-mêmes que nous aurons cherchée. Et par conséquent, quel heureux privilège que, dans la soumission à Dieu, nous nous livrions comme nous devrions le faire à la gloire de Christ en toutes choses.